Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Croza en studio avec Mathéo, Axel, Jeanne, Adrien et Sangyue. Donc c'est l'émission du cours WE1, écrire, communiquer et collaborer sur le web, donné à l'UTC, donc pour lequel les supports peuvent être trouvés sur librecours.net. Les étudiants et étudiantes de ce cours ont un projet à mener qui consiste à écrire et publier sur le web un dossier en lien avec les enjeux techniques et sociétaux du web. La semaine dernière, on a parlé de Wikipédia en tant qu'exemple pour penser la low-technicisation du web, et on a parlé également conflits, médias numériques et réseaux sociaux. On peut retrouver les émissions de la semaine dernière sur aperi.tube, chaîne WE1. Aujourd'hui, on va enchaîner deux émissions. La première, donc avec Sangyue, Mathéo et Axel, va nous parler de l'amplification de la surveillance en période de pandémie. La seconde, donc qui sera menée par Adrien et Jeanne, on va parler des inhibitions, armes pour ou contre le peuple. Les autres étudiants et étudiantes de l'UTC sont à l'écoute de vos interventions et donc ont pour mission de vous poser des questions. On a Léo presque à la réalisation, en tout cas en backup, si je fais des bêtises. Donc on va pouvoir démarrer avec la première partie de l'émission. Donc je rappelle, le titre « Amplification de la surveillance en période de pandémie ». Et donc Sangyue, tu peux commencer à nous faire l'introduction. C'est parti.
Et en général, la surveillance est l'acte d'observer des activités humaines ou en lieu. Grâce aux progrès technologiques, de nouveaux champs et moyens de la surveillance sont fournis pour que le gouvernement et les entreprises puissent surveiller sa population et ses utilisateurs. On parle ainsi de la masse surveillance et d'économie de surveillance. Selon les recherches de Sochina Zuboff, le monde d'aujourd'hui migre vers un capitalisme de surveillance qui désigne un champ émergent et florissant d'économie traitant en profit de la surveillance numérique de la population. Donc, comment la surveillance conduit au profit? Selon l'économiste Karl Polanyi, l'histoire du capitalisme consiste toujours à capter les choses extérieures à la sphère commerciale pour les changer en marchandises. Premièrement, la vie humaine est surnommée travail, vendue et achetée. Deuxièmement, la nature est convertie en marché qui renaît comme propriété foncière. Troisièmement, l'échange est devenu marchand et ressuscité comme l'argent. Et maintenant, à travers de la surveillance, notre corps et même nos pensées et sentiments se trouvent marchandisés par le capitalisme pour renaître sous forme de comportement. Finalement, le but est d'alimenter les machines de prédiction qui s'achètent et se vendent. Tout ça veut dire que l'économie de surveillance repose sur un principe de hiérarchie. L'ancienne réciprocité entre les entreprises et les utilisateurs est remplacée par l'extraction d'une plus-value de nous agissant à des fins conçues pour d'autres. Nous ne sommes plus les sujets de réalisation des valeurs et même plus le produit que vend Google. Nous sommes les objets dont la matière est extraite, expropriée, puis injectée dans les usines d'intelligence artificielle de Google qui fabriquent les produits prédictifs vendus aux clients réels, les entreprises qui payent pour jouer sur les nouveaux marchés comportementaux.
Merci beaucoup. Donc, tu nous as fait une première petite introduction où tu nous as exposé les principes généraux de la surveillance. Alors, ce que je propose peut-être, comme c'était une introduction un petit peu générale, c'est qu'on passe tout de suite la parole à Mathéo pour que tu nous fasses un état des lieux, en quelque sorte, de la surveillance avant la pandémie du Covid-19. C'est bien ça? C'est parti. Alors, tu as la main.
Alors, l'une des grandes question des dernières années est celle de la surveillance et de son amplification. Donc une question logique serait de se demander comment la pandémie a amplifié la surveillance et comment l'a-t-elle rendue visible. Donc en effet, pour nous remettre dans le contexte actuel, depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19, les États utilisent les informations et créent des plateformes de suivi de l'épidémie ainsi que des cas contacts autour de nombreuses personnes. Alors pour revenir sur les origines de la surveillance en France, je vous propose d'écouter un extrait d'Olivier Tesquet qui était l'invité sur la radio RCJ.
Par surveillance, reprenons les bases. Utiliser Internet, Olivier Tesquet, c'est donc produire des informations.
Absolument. C'est-à-dire que dès que vous tapez des informations sur un clavier,
ça a été un petit peu vite, j'avais pas de questions.
Vous avez
été trop occupé, donc je vais essayer d'en retrouver une d'ici là.
Regardez une vidéo sur YouTube, vous parlez avec vos proches sur Facebook, vous réservez un billet d'avion sur un site, enfin, quelle que soit l'activité finalement que vous puissiez avoir sur Internet, cette trace, elle est horodatée. Et ensuite, elle est partagée avec un certain nombre d'acteurs, qui ne sont pas toujours d'ailleurs publics, qui n'ont pas nécessairement pignon sur rue. Et ensuite, ces traces sont utilisées, alors bien souvent à des fins commerciales, elles peuvent l'être aussi à d'autres finalités. On le voit en ce moment, effectivement, avec la crise sanitaire, ces traces-là alors, peuvent revêtir, ou d'autres types de traces peuvent revêtir un intérêt. Mais il est important, effectivement, d'avoir à l'esprit que le moindre de nos gestes, finalement, est transformé en données exploitables.
Alors, et c'est l'objet de votre enquête, c'est de nous montrer, de nous faire découvrir justement toutes ces utilisations et ces usages de ces données. Mais vous utilisez justement la trame historique pour nous montrer qu'en effet, les traces dont on parle aujourd'hui dans le numérique sont issues des traces qui historiquement ont toujours accompagné les faits et gestes des hommes et qui ont toujours eu leur utilité, y compris au niveau de la construction de l'État et effectivement des formes de surveillance policière.
Alors tout d'abord, qui est Olivier Tesquet, qui était l'invité de cette intervention radio. Donc Olivier Tesquet, c'est un journaliste à Télérama qui s'intéresse particulièrement aux questions du numérique comme la surveillance. Alors un des points évoqués dans cet extrait, c'est le fichage et en particulier le fichage en France. Alors depuis 1974, avec l'apparition de Safari et l'introduction d'un fichage méthodique de 52 millions de Français. Alors, le terme Safari, qu'est-ce que c'est ? Alors, le terme Safari, ça désigne le système automatisé pour les fichiers administratifs et répertoires des individus. Alors, à son origine, Safari avait pour but de centraliser les informations au ministère de l'Intérieur. Grâce à des outils informatiques puissants, près de 100 millions de fiches réparties dans les quelques 400 fichiers de services de police. Ces informations, on les a d'après un reportage de Bernard Rapport en 1976. Alors depuis les années 2000, nous pouvons remarquer une augmentation radicale du nombre de fichiers de police et de renseignement. En effet, l'État français passe de 34 fichiers de police et de renseignement en 2006 à 70 en 2011, puis jusqu'à 106 en 2018, d'après les rapports d'information sur les fichiers à la disposition des forces de sécurité par des députés. Alors Olivier Tesquet parle de boulimie de fichiers dans son livre « À la trace ». Cet accroissement de fichiers, du nombre de fichiers peut nous questionner sur le respect de la présomption d'innocence, par exemple. Par ailleurs, nous pouvons aussi nous interroger sur une perte de décence vis-à-vis de la justice et une perte du droit de regard. En principe, tous les Français ont un droit d'effacement des données. Cela signifie qu'ils peuvent demander que certaines de ces données soient supprimées. Ces droits s'ajoutent aux droits de rectification des données, qui sont de plus en plus difficiles à respecter avec une automatisation rapide de la collecte de données. Alors, par exemple, pour appuyer cette phrase, on peut citer l'exemple de la journaliste Camille Polony, qui après 6 ans de procédure, le Conseil d'État a admis que des données la concernant figuraient illégalement dans des traitements de données. Donc cela a mené à l'effacement de certaines données, mais sans savoir lesquelles ont été supprimées. Donc on voit ici les limites du système. Depuis ces dernières années, nous pouvons aussi observer une certaine acceptation de la surveillance par la population, soit par ignorance, soit par défaut. Alors cette idée d'une acceptation de la surveillance introduit un autre point. La banalisation de cette dernière, dans son livre « À la trace », du coup, Olivier Tesquet énonce le fait que l'ordinateur n'est plus prisonnier de sa boîte, mais il interagit de plus en plus avec son environnement. Un exemple de cette interaction est la montre connectée, qui s'est démocratisée depuis ces dernières années. Donc, certaines entreprises sont liées par des contrats avec des acteurs publics pour avoir des accès à des données des utilisateurs, par exemple. Donc, on peut citer, par exemple, le géant de l'Internet Google, qui peut accéder à des millions de données médicales. Ou encore Apple qui se rapproche des services gouvernementaux liés au monde médical afin de trouver une montre aux seniors en lien avec leurs besoins et leurs données exploitées. Certains grands groupes vont même jusqu'à payer des sous-traitants afin d'écouter les conversations des utilisateurs. Le but serait de vérifier si les intelligences artificielles placées dans leurs produits fonctionnent correctement. Donc cette idée de l'écoute, de la surveillance, peut nous faire penser au livre de science-fiction 1984 de George Orwell, avec Big Brother qui nous surveille en permanence. Bien que publié en 1949, ce livre est de plus en plus d'actualité en ce qui concerne la surveillance prolongée et quotidienne de la population française, mais aussi internationale.
Merci, merci à toi Mathéo de cette, cette présentation. J'ai une petite question à te poser. Si elle vient un peu trop tôt dans l'exposé, on pourra la retraiter plus tard. Mais tu parles là effectivement de Big Brother, tu nous as parlé des fichiers de la police. Mais fondamentalement, on pourrait se dire que ce n'est pas une si mauvaise chose que la police puisse accéder à des informations dans le cadre des procédures juridiques, etc. Est-ce que, peut-être dans le livre que tu as lu, là, ou dans d'autres, un avis personnel que tu aurais, ou d'autres lectures, est-ce qu'on a une idée des problèmes que peut poser cette surveillance massive ?
En fait, le problème, c'est que... L'accumulation de fichiers, en fait, de fichiers d'enseignement, ça peut créer des anomalies de données. Donc, dans le livre que j'ai lu à la trace, Olivier Tesquet disait que, vu le grand nombre de fichiers de police, ça pouvait entraîner des erreurs et des personnes qui étaient, par exemple, supposées, qu'on avait suspectées dans une enquête, mais qui étaient acquittées, étaient encore, en fait, suspectées par la police des années après. Donc, on voit, en fait, on perd la présomption d'innocence avec ces fichiers-là.
Ouais, on perd la possibilité d'oublier. On parle parfois de droit à l'oubli. C'est un petit peu en lien avec ça. On a une autre question qui est posée par Bastien. Alors, elle est un petit peu générale, mais tu as répondu un petit peu avec les fichiers. La question de Bastien, c'est a-t-on une idée de la quantité des données enregistrées ? Alors, je ne sais pas si vous allez traiter ça un petit peu dans la suite ou si tu as d'autres informations à nous donner. Pas forcément. Alors effectivement, vous n'avez pas vu, hein, mais en studio, j'ai des têtes qui ont fait non. Mais effectivement, l'idée, peut-être, Bastien, c'est qu'en tout cas, ce qui était montré par Mathéo, c'est qu'on a un accroissement des données qui sont enregistrées. Et ça, effectivement, on l'observe un petit peu dans tous les domaines. Il y a une autre question d'Adrien, mais ce que je propose, c'est que l'on enchaîne peut-être avec... avec la troisième et dernière partie. Donc c'est Axel qui va nous parler de l'extension de la surveillance pendant la pandémie de Covid. Mais je crois, Axel, que tu souhaitais qu'on commence directement par l'extrait, n'est-ce pas ?
C'est ça. La pandémie de Covid-19, c'est que ça agit comme à la fois un révélateur et un accélérateur. Un révélateur parce que tout à coup, des dispositifs qui étaient plutôt des dispositifs de surveillance cachés, qui étaient les dispositifs de surveillance que je décrivais dans la trace, sont devenus tout à coup beaucoup plus visibles parce qu'on est dans une crise d'ampleur mondiale avec des gouvernements qui agissent évidemment dans une forme d'urgence, d'où un peu d'ailleurs le titre du livre. Et tout à coup, ça fait remonter comme ça à la surface des dispositifs qui deviennent de plus en plus apparents. Et ensuite, ça a été un grand moment, et c'est toujours un grand moment d'accélération dans la mesure où des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre et qui étaient aussi là les dynamiques que je décrivais dans mon livre précédent ont été considérablement accélérées par la crise sanitaire, dans la mesure où là aussi le levier sanitaire après des années de levier sécuritaire a été extrêmement fort. Donc on est dans un moment qui est un moment surveillant. Et on sait que les épidémies sont de grands moments de normalisation. Hein. Évidemment, on pense à tout ce qu'écrivait Michel Foucault sur les corps qui meurent dans le désordre et l'incapacité du pouvoir à accepter que ces corps puissent justement mourir dans le désordre. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, et c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est qu'on a toute une économie qui, jusqu'à présent, était très adossé à des marchés sécuritaires et qui, pendant des années, et a fortiori ces 10 dernières années, dans un contexte sécuritaire, terroriste qu'on connaît, ont bénéficié de larges parts et de larges marchés publics ou de partenariats publics-privés. Enfin, se sont taillés une bonne part du gâteau pour justement vendre des dispositifs de surveillance. Et aujourd'hui, ces mêmes acteurs économiques pénètre des marchés qui deviennent des marchés sanitaires. Mais ce qui me frappe.
Alors, en effet, hein, Axel, donc ici, on a une mise en perspective de ce qui se passe pendant la pandémie. Je crois que c'est ce que tu vas nous décrire plus en détail, n'est-ce pas ?
Je vais étendre là-dessus. Donc, comme nous avons pu l'entendre dans cette intervention de Olivier Tesquet, la pandémie a permis de mettre en évidence des mécanismes de surveillance qui existaient déjà avant cette dernière. En effet, la pandémie donne un motif à la surveillance de la population. Celui-ci étant la problématique de la santé publique. Dans son livre « État d'urgence technologique », Olivier Tesquet nous parle notamment du cas du gouvernement israélien qui a décidé d'utiliser un système normalement utilisé dans la lutte contre le terrorisme pour réaliser un traçage numérique des téléphones de leurs citoyens, permettant ainsi d'envoyer des messages aux personnes ayant été en contact avec des personnes malades pour leur demander de se mettre en quarantaine. Avec la pandémie, diverses entreprises qui se spécialisaient avant dans la surveillance au sens de la sécurité se sont mises à travailler avec des gouvernements, par exemple, toujours selon le livre « État d'urgence technologique » aux États-Unis, l'entreprise Palantir, dont le nom vient d'une relique issue du Seigneur des Anneaux, permettant de voir partout, tout le temps. Spécialisée dans le brassage de données, cette entreprise, qui est un fonds d'investissement de la CIA et qui, dans un premier temps, travaillait dans le renseignement, l'un de ses fondateurs dit dans son livre « The Education of a Libertarian » qu'il ne pense plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. Travaille ainsi dans la lutte contre le virus en travaillant, par exemple, avec le gouvernement britannique qui, contre une livre sterling, leur a ouvert leur réservoir de données concernant le Covid-19. Ces données contiennent différentes informations comme les noms des patients, leurs âges, les adresses, des états de santé, des traitements, etc., etc. Et sont utilisées pour alimenter des modèles prédictifs. Donc là, sur cette partie-là, on rejoint un peu la partie de Matteo, avec surtout celle de Sangyu. Aux États-Unis, Palantir travaille main dans la main avec le gouvernement américain, par exemple, pour décider de la stratégie de vaccination. C'est à cette entreprise que les États-Unis ont décidé de confier la question. De plus, l'entreprise a fait son entrée en bourse en septembre 2020, en profitant de l'image que lui avait offerte la lutte contre le Covid-19. Un aspect sur lequel Olivier Tesquet revient régulièrement est l'effet de cliquer dans les mesures de surveillance. En effet, il est possible d'observer une certaine progression dans les mesures contre le Covid. Et en fait, l'idée de cet effet de cliquer, c'est qu'en fait, on avance dans les mesures, mais on ne revient jamais en arrière, ou très très peu. Par exemple, si on prend un exemple assez récent, si on prend le cas du pass sanitaire, il était au début limité à certains lieux, comme les discothèques, et Macron avait dit lors d'une allocation fin avril 2021 qu'il ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. On sait ce qu'il en est maintenant. Pourtant, début août 2021, le pass sanitaire a bien été étendu à la plupart des lieux de la vie de tous les jours. De plus, dans le but de pousser les gens à se vacciner, les tests PCR sont devenus payants à la mi-novembre. Et vers la fin novembre, ils sont devenus la seule alternative possible pour obtenir un pass sanitaire. Les autres alternatives étant les tests antigéniques ou les autotests qui étaient beaucoup moins chers. Et ce seulement pour 24 heures contre 72 heures avant. De plus, le pass sanitaire était supposé être un outil d'exception et temporaire. Cependant, sa date de fin, qui était initialement à la fin septembre, avant que sa date ne soit repoussée fin novembre, puis finalement, maintenant, encore une fois, repoussée au 31 juillet 2022, ce qui permet d'enjamber la période des élections, qui est une période un peu compliquée sur le plan politique, et donc d'éviter le débat en période d'élection. Ce phénomène illustre bien l'effet de cliquer décrit par Olivier Tesquet, où le régime de l'exception devient la norme et où les mesures prises par l'État se font de plus en plus liberticides et ne reviennent jamais en arrière. Cas de l'état d'urgence qui est entré dans la loi en 2017. Vous vous rappelez l'état d'urgence qui avait fait suite à certains attentats et qui avait été toujours prolongé jusqu'à être finalement entré dans la loi en 2017. Ce qui s'était fait de manière... ils n'en avaient pas beaucoup parlé à l'époque. La pandémie permet d'accélérer ces processus en justifiant les actions du gouvernement grâce à l'impératif sanitaire.
Merci beaucoup à toi de cette présentation, Axel. Tu nous as effectivement là, cité plusieurs exemples assez intéressants d'élargissement, en quelque sorte, du spectre de la surveillance. Tu nous as parlé aussi de l'effet cliquet. Je vais regarder, on avait une question que j'avais gardée sous le coude d'Adrien. Je ne sais pas, Sangyue, si tu veux participer également. Vous êtes tous les trois si vous le souhaitez. Mais donc Adrien nous dit qu'il y a une expression qui est plutôt utilisée dans le monde du commerce qui dit « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Et par rapport à votre introduction notamment, Adrien nous demande si vous pensez qu'en quelque sorte on peut faire une analogie. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête, mais est-ce qu'on peut parler d'un utilisateur produit ou d'un citoyen produit dans le cadre du service de l'État? Et il dit peut-être que l'exemple de tous anti-Covid peut nous guider vers ça. Je ne sais pas si ça vous inspire comme ouverture à la fin.
Alors, je dirais que dans le cas de l'État, d'une certaine manière, on paye. Les impôts sont payants. Donc, le droit de faire partie de la société, enfin, les avantages qu'apporte la société viennent en partie des impôts. Il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, ce n'est pas tout à fait un service gratuit. Ensuite, sinon, pour la notion où finalement, on servirait quelque part de produit... ou enfin de produits entre guillemets, on pourrait parler du fonctionnement de tous anti-Covid, qui est le même fonctionnement qu'une application qui est utilisée à Singapour, et dont l'utilisation initiale, qui était la surveillance du Covid, a été détournée maintenant pour des enquêtes de police. Donc on se retrouve bien avec l'idée, alors on n'est pas tout à fait dans un produit au sens commercial, mais d'une certaine manière un détournement des données pour d'autres utilisations que celles prévues initialement. Et si on commence à parler d'enquête de police, on peut parler de la définition d'un criminel, et ça dépend du gouvernement.
Ouais, tout à fait. Et puis tu as montré aussi dans ta présentation, hein, tu viens de leur dire là, mais en quelque sorte, peut-être aussi ce qui est peut-être nouveau, ou en tout cas l'assaillant, c'est qu'il y a une sorte de perméabilité entre effectivement les technologies, les entreprises du domaine de la publicité, du loisir, etc. Et puis ici les entreprises de sécurité, on voit que tout ça fait peut-être aussi partie des différents problèmes. Peut-être une dernière remarque que je vous livre de Ricardo, à laquelle vous êtes libre de réagir ou pas. Mais Ricardo nous dit qu'il y a une intériorisation, en quelque sorte, de la surveillance qui se fait, que ce soit d'ailleurs au niveau des entreprises qui vont considérer que c'est un mode de fonctionnement normal. Hein, on en a parlé encore tout à l'heure en cours avec la collecte des informations sur les sites web, qui est également intériorisé par les États. Alors, Ricardo nous dit, je parle de l'effet panoptique. Tu as cité tout à l'heure, ou peut-être c'est dans l'extrait, on a entendu parler de Michel Foucault, qui lui-même s'était inspiré de Jérémy Bentham pour parler de la panoptique. Et donc, en fait, ce que nous dit Ricardo, c'est que pour que la surveillance soit opérationnelle, ben en fait, il n'est pas nécessaire que les gens soient vraiment surveillés en permanence. Il suffit en fait qu'ils soient conscients, en quelque sorte, de la possibilité de cette surveillance. C'est un des enseignements de l'effet panoptique, c'est que le simple fait de se croire ou de se savoir partiellement surveillé peut conduire à modifier nos comportements. Je ne sais pas si vous avez une réaction pas nécessaire. Hein. Vas-y.
Donc à ce niveau-là, on pourrait agir sur le point que... Oui, en effet, dans son livre, Olivier Tesquet, on parle régulièrement sur le fait que plus la situation dans laquelle on est actuellement, c'est on est dans une situation où on est parfaitement conscient de la surveillance et où, en fait, on l'accepte. Et c'est ce qui la rend d'autant plus dangereuse parce que, du coup, elle n'est pas imposée aux gens, donc on ne cherche pas à s'en cacher réellement. Et elle en devient d'autant plus simple. Et je donnerai un exemple. Je ne suis pas sûr que avant la pandémie, on aurait laissé passer quelque chose comme le pass sanitaire, où ça aurait dû se passer de manière très musclée.
Voilà, en effet. Bah, écoute, merci pour cette dernière intervention. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Non ? C'est bon ? Ok. Je rappelle les sources de votre exposé. Donc, c'était deux livres d'Olivier Tesquet, qui s'appelle « À la trace » pour le premier, le plus ancien, 2020, et « État d'urgence technologique » pour le plus récent, 2021. Merci beaucoup à tous les trois pour cette première présentation. Et puis, on va enchaîner donc sans transition. La semaine prochaine, je préparerai un petit peu de musique. Mais là, on a oublié. Donc, du coup, on va enchaîner directement avec Jeanne et Adrien. Jeanne, je vais te laisser annoncer votre titre, si tu veux bien.
Pas de souci. Notre titre, c'est la désinhibition, armes pour ou contre le peuple.
Eh bien, écoute, merci à toi. J'avais oublié de la renoter sur mon fil. Donc, on va faire une présentation en deux parties. Tu vas nous faire la première partie. Et donc, tu vas nous parler et nous présenter le principe de la cancel culture.
Oui.
Et puis ensuite, Adrien enchaînera avec une seconde partie sur comment se confier, enfin pardon, sur ce que veut dire se confier sur Internet, plutôt que tu ne vas pas forcément nous donner les recettes pour le faire. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Eh bien c'est parti pour toi Jeanne, tu as la main.
Chaque seconde, environ 5900 tweets sont expédiés sur le site de microblogging Twitter. Ça représente environ 504 millions de tweets par jour ou 184 milliards par an. On n'a jamais autant écrit à travers l'histoire. C'est ce que beaucoup de personnes déclarent, notamment Louise-Amélie Cougnon, chargée de la recherche au pôle linguistique de l'Université catholique de Louvain. Et cela, c'est avant tout possible grâce aux avancées du web et aux réseaux sociaux. Dans notre première partie, on va d'abord parler de la désinhibition sur Internet au travers de la cancel culture, comment on passe de la liberté d'expression à une censure populaire. Et puis Adrien va se pencher plus en détail sur l'utilisation des réseaux sociaux, du fait de se confier en ligne et surtout sur la question de l'anonymat. Alors, une grande question, c'est qu'est-ce que la cancel culture ? C'est vraiment un terme qui est employé pour tout et rien. On en entend beaucoup parler dans les médias de nos jours. Et elle est représentée comme l'avatar du politiquement correct, qui est un peu cette attitude qui consiste à modifier son comportement, son attitude pour ne heurter personne. Mais qu'est-ce que réellement la cancel culture ? C'est une pratique qui est née aux États-Unis et elle consiste à dénoncer publiquement des agissements jugés comme inadmissibles d'une personne ou d'un groupe de personnes dans le but de les ostraciser. Les utilisateurs sont encouragés à ne pas interagir avec ces personnes dans le but de réduire leur influence et leur importance. Les personnes visées sont alors annulées, cancelled en anglais, et exclues de certains cercles sociaux. Cette pratique est très présente en ligne et très courante sur Twitter et YouTube, où se multiplient les tweets dédiés à dénoncer des agissements d'une personne ou des vidéos de type call-out centrées sur un individu, où la vidéo se concentre littéralement à dénoncer une personne en particulier. La cancel culture peut s'apparenter à un boycott simple, comme il existe depuis des centaines d'années, à la différence près que le théâtre de cette dernière de la cancel culture, c'est le web, en particulier les réseaux sociaux. Grâce à l'anonymat relatif donné par Twitter, YouTube et compagnie, ainsi que la liberté donnée à n'importe qui de s'exprimer et de donner son avis sur les réseaux sociaux, il est plus que facile pour un utilisateur lambda de participer à ce genre de pratique. Pour illustrer ça, je vous propose un passage d'une vidéo d'AstronoGeek dédiée au sujet. C'est une vidéo très subjective et forte en opinion, mais je veux juste me concentrer sur la définition et la présentation qu'il donne de la cancel culture et de l'impact des réseaux sociaux sur une telle pratique.
Je voudrais donc maintenant vous parler de ce phénomène extrêmement délétère, surtout présent sur Twitter, et qui touche non seulement les célébrités, mais aussi les gens lambda. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu ça, mais il n'y a pas si longtemps, la majorité des gens n'avaient juste pas la parole. Puis, sont arrivés les réseaux sociaux. Et d'un point de vue social, ça a été une révolution. Beaucoup de gens n'avaient certes rien à dire, mais ceux qui voulaient s'exprimer pouvaient y trouver une tribune. Plus besoin d'être une personnalité connue et reconnue pour pouvoir donner son avis sur tout et n'importe quoi. N'importe quel quidam pouvait trouver là un moyen d'être entendu à large échelle. Regardez la vulgarisation scientifique sur YouTube, par exemple. Il y a 20 ans, on avait C'est pas sorcier sur France Télé. Aujourd'hui, n'importe qui d'un peu créatif, capable d'organiser ses idées et d'utiliser un logiciel de montage, peut être suivi par des dizaines, voire des centaines de milliers de gens. Regardez l'humour. Plus besoin de faire des tournées et une grosse promo pour remplir les salles. Et si vous avez suffisamment de talent, une chaîne YouTube suffit. Les réseaux sociaux permettent à n'importe qui de s'exprimer, et pour peu qu'il ait quelque chose d'intéressant à dire, d'être entendu. Dans les débuts de Twitter, la foule a pris conscience qu'elle avait un tout nouveau pouvoir. Quand un journal disait une connerie, n'importe quel random avec quelque chose d'intelligent à répondre pouvait le remettre à sa place. Par le jeu des retweets et des partages, un ou plusieurs anonymes pouvaient se retrouver avec autant de poids qu'un journal national. Et rapidement, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient tenir tête à des médias bien plus gros qu'eux, mais aussi à des gens bien plus puissants. Les abus de pouvoir n'allaient plus être permis. Une sommité auparavant intouchable était maintenant vulnérable face à la foule en cas de faux pas. La justice allait pouvoir être rétablie pour ceux qui auparavant étaient réduits au silence. Il était devenu possible de toucher les puissants par un moyen qu'ils ne maîtrisaient pas, celui de leur foutre la honte en ligne. On pouvait les toucher au portefeuille parce que leurs annonceurs ou leurs partenaires ne voudraient plus leur associer leur image. On pouvait ostraciser les gens au comportement intolérable. Les réseaux sociaux, avec Twitter en fer de lance, étaient devenus une nouvelle guillotine. Et comme lors de la Révolution, on pouvait couper la tête au roi.
Donc ici, ce qui est important, c'est que les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans cette pratique. Par exemple, sur Twitter, grâce au hashtag, il est facile de lire les tweets et voir les vidéos traitant du même sujet. On a eu le hashtag IsOverParty, qui est souvent utilisé pour cancel une célébrité. IsOver signifie simplement être fini, est fini. Et donc on cherche clairement à montrer qu'une personne est finie, qu'on ne doit plus parler d'elle. Et par exemple, la chanteuse Taylor Swift ou encore l'auteur J.K. Rowling ont été sujets à ce genre de tweets. C'est aussi sur les réseaux sociaux que ce genre de polémiques trouve leur source. Internet n'oublie pas, il est très difficile d'effacer ses traces et on n'y pense pas toujours. Je pense que bon nombre d'entre nous, on serait incapable de se souvenir ce qu'on a pu écrire sur Facebook, sur Twitter en 2014. Et c'est justement cette mémoire d'Internet qui donne naissance à de nombreuses polémiques virant à des cas de cancel culture. Des utilisateurs déterrent des vieux tweets, des vieilles vidéos qui peuvent être jugées racistes, sexistes, homophobes de nos jours. Ces propos problématiques tenus par des célébrités, ils étaient tenus lorsqu'elles étaient encore anonymes, souvent, et pas connues du public. Et elle ne pensait certainement pas qu'un grand nombre d'individus liraient un jour de tels propos. Pour prendre un exemple français, un candidat de The Voice, pourtant sélectionné pour continuer l'émission, s'est vu retiré de l'émission après la découverte de tweets homophobes tenus en 2017 quand il était encore mineur. Il y a donc une sorte d'inversion du rapport de force. Là où une personne célèbre et connue ne peut plus profiter de son anonymat, de cet anonymat dont elle bénéficiait auparavant lors d'écriture de ses propos qui posent maintenant problème, tous les autres utilisateurs qui la dénoncent ou même s'attaquent à elle se sentent encore protégés par leur pseudonyme et beaucoup ne modèrent pas leurs propos portés par l'effet de groupe. Il y a aussi le même genre de choses qui se produit sur YouTube avec la mode des youtubeurs de type commentary qui expliquent et donnent leurs avis sur des phénomènes, des œuvres ou des événements. Et certains de ces youtubeurs se concentrent principalement dans la critique d'autres personnalités. Et on a cette naissance de vidéos qui consistent à critiquer une autre personnalité. Cette personnalité répond et ils essayent chacun d'émuler un peu leur public pour se liguer contre une autre personne parce qu'ils n'apprécient pas leurs agissements. Et si le boycott et le harcèlement ont toujours existé, bien avant la démocratisation des ordinateurs, les réseaux sociaux donnent vraiment une plateforme d'expression pour tout le monde. N'importe qui peut se joindre à la foule et se lancer dans la critique d'une personne dont parfois ils ignoraient même l'existence il y a quelques minutes. Et plus une personne est critiquée, plus elle apparaîtra dans les top tendances et plus de nouveaux tweets, plus de nouveaux utilisateurs vont commencer à la critiquer. Pour pouvoir citer une autrice, les réseaux sociaux sont un espace public. C'est Dana Boyd qui le dit dans son livre « C'est compliqué, la vie numérique des adolescents ». Elle souligne comment les réseaux sociaux sont prisés par les jeunes, car ils ne sont tout simplement pas admis dans d'autres espaces publics et ils peuvent très peu s'exprimer. Et c'est aussi au final ce qui est souligné dans la définition d'AstronoGeek. Sans les réseaux sociaux, il n'est pas possible d'avoir une plateforme d'expression disponible facilement pour tous. Les journaux, la télé, la radio, il est possible de s'exprimer, mais ce n'est pas naturel. C'est difficile d'y avoir accès si on n'a pas les bonnes opportunités et les bons contacts. Internet a vraiment développé un nouvel espace public qui libère la parole de ceux qui n'ont jusque-là que rarement été entendus. Et les réseaux sociaux donnent vraiment une plateforme à tout le monde, aux adolescents et au-delà, pour le meilleur et comme pour le pire.
Merci beaucoup de cette démonstration. J'ai une toute petite question de précision de Bastien d'abord qui nous demande qui sont en général les victimes de la cancel culture. Est-ce que c'est n'importe quel utilisateur lambda sans réelle audience? Les utilisateurs qui possèdent déjà une petite audience sur les médias sociaux, ou alors uniquement effectivement les utilisateurs, enfin les personnes considérées comme connues ou les stars?
Alors effectivement, ça peut être tout le monde. C'est souvent des célébrités ou au moins des personnalités ayant un peu une communauté en ligne. Pas besoin d'avoir des millions et des millions d'abonnés sur YouTube. Des fois, peuvent subir ce genre d'agissement des personnes avec quelques dizaines de milliers d'abonnés. Mais il arrive parfois que des anonymes complets se retrouvent sous le feu de l'action. C'est arrivé, je le sais, à une Américaine qui avait posté une blague assez raciste sur Twitter. Elle avait seulement 100 abonnés sur Twitter, donc vraiment, elle était suivie par ses amis et sa famille. Et le lendemain, alors qu'elle n'était même pas en train de regarder Twitter, son tweet avait été retweeté des milliers et des milliers de fois et elle se prenait même des incitations au viol, des insultes, on avait contacté son travail, son ancienne université et elle a tout perdu en l'espace d'un tweet qu'elle pensait que seuls ses amis allaient voir. Et elle s'est exprimée assez récemment et elle a dit que sa vie était ruinée par, par de tels agissements, qu'elle regrettait énormément ce qu'elle avait fait et que tout était parti hors de contrôle, hors de son pouvoir. Et c'est encore, pour moi encore pire que pour une célébrité, parce qu'elle n'avait vraiment personne derrière elle, puisque personne ne la connaissait auparavant. Tout ce qu'il connaissait d'elle, c'était ce tweet, certes raciste, qu'elle avait posté. Mais elle n'avait personne qu'un chanteur pourrait encore avoir des fans qui le défendent ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui, même s'il touche principalement des célébrités, peut toucher tout le monde.
Moi, ce que j'ai, question que j'ai envie de te poser, ce que ça m'inspire, c'est que il me semble qu'il y a un lien entre le temps du numérique, en quelque sorte, l'instantanéité liée au numérique, et puis le temps de la justice. Et effectivement, en général, on dit que la justice est lente, mais c'est aussi parce que parfois, il faut justement le temps de peser le pour, le contre, de trouver le contexte, les circonstances. Et est-ce que là, on a un effet, en quelque sorte, du support que l'on utilise, qui fait qu'on a une instantanéité qui, quelque part, ne laisse pas ce temps? Je ne sais pas si tu penses qu'il y a un lien de ce type-là, ou si ça vient d'ailleurs, selon toi.
C'est vrai qu'aussi les réseaux sociaux, dès qu'une dénonciation est faite, tout le monde peut réagir instantanément, sans même des fois avoir laissé le temps à la personne de se défendre sur le sujet en question, sur ce quoi on l'accuse. Alors qu'il est vrai que la justice, des fois, va prendre plusieurs années pour qu'un procès ait lieu, pour qu'une personne soit condamnée pour de tels agissements. Et c'est un peu justement, je pense, une réponse à cette justice qui est parfois beaucoup trop lente pour certains sujets, que cette cancel culture a pris ce pas de l'instantanéité pour justement avoir une réaction immédiate, des conséquences immédiates à des accusations, plutôt que devoir attendre plusieurs années que la justice puisse faire son travail, tout simplement.
Oui, il me semble que tu nous as bien montré ces effets de balancier. Donc là, on a un effet de balancier en quelque sorte sur le temps. Tu nous as montré aussi les effets de balancier sur l'anonymat qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, on pourrait dire les gens qui ont l'accès à la parole publique sont favorisés, alors que les autres ne peuvent pas s'exprimer. Et là, en quelque sorte, tu nous as montré qu'il y avait un renversement et que les gens allaient utiliser l'anonymat pour, in fine, s'en prendre à des personnes publiques, là où elles, justement, ne pouvaient plus utiliser ces mêmes mécanismes. Donc, du coup, il y a des effets de balancier comme ça qui se produisent. Une petite question d'Alban. Et ensuite, on aura Axel également dans le studio pour une dernière. Alban nous demande, est-ce que tu sais s'il existe, ou est-ce que Adrien aussi, est-ce que vous savez, s'il existe une date de prescription pour la publication de contenu incitant à la haine sur les réseaux? Donc là, c'est une question un peu plus légale. Je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse, mais est-ce qu'à votre avis, il y a prescription
Alors, d'un point de vue légal, je n'ai vraiment pas la réponse. Je ne sais pas s'il y a prescription. Après, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la cancel culture, c'est que pour les utilisateurs, il n'y a pas prescription. Si on retrouve des écrits qui peuvent dater des fois il y a même 15 ans, ça peut vraiment desservir une personne, même si on se doute qu'en 15 ans, elle a quand même eu le temps d'évoluer. Peut-être qu'effectivement, elle a fait une blague très sexiste, raciste ou homophobe, mais peut-être qu'en 15 ans, elle a justement pris conscience que ce n'était pas quelque chose à faire, que justement, elle ne le ferait plus. Mais ça peut effectivement la desservir, qu'on puisse retrouver ces écrits faits il y a des années et des années et qu'on la critique comme si c'était quelque chose qu'elle venait de faire actuellement.
Oui, effectivement, je crois que c'est ce que tu nous as bien montré. Océane nous demandait comment est-ce qu'on peut se protéger de ça, en fait. Est-ce qu'il y a des dispositifs légaux? Mais comme tu viens de le dire, finalement, c'est pas un problème légal, puisqu'on est plutôt dans un système qui court-circuite en quelque sorte la loi, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et que c'est bien le problème que l'on a là. Alors, on a aussi une question de Gabriel qui est arrivée, mais je vais donner la main à Axel pour une question courte.
Voilà. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque aussi avec les réseaux sociaux d'amplifier la voix de certaines personnes, hein, puisqu'au final c'est ce que ça fait, mais au point de donner à des minorités une voix bien plus puissante qu'une majorité plus silencieuse?
La chose qui pour moi est très visible sur les réseaux sociaux, c'est que ça va être toujours plus les extrêmes qui vont s'exprimer. Ça va être souvent des gens avec des opinions très fortes, même si elles sont très opposées, qui vont s'exprimer. La majorité silencieuse a tendance à justement ne pas s'exprimer, et c'est bien le problème. La majorité silencieuse va tendance à simplement voir ce qui se passe, lire les tweets sans pour autant participer. Et c'est vrai que ça peut créer un déséquilibre par rapport à des gens qui sont beaucoup plus investis, beaucoup plus extrêmes dans leur pensée, que ce soit n'importe quel extrême, que par rapport à une grande majorité plus modérée, mais qui aura tendance à beaucoup moins s'exprimer.
Merci beaucoup à toi. C'est un sujet sur lequel on pourrait beaucoup débattre, mais je propose que l'on donne la main à Adrien pour la seconde partie de l'exposé.
Oui, donc moi je vais vous parler de le fait de se confier sur Internet. Alors, comme Jeanne l'a dit, ce qu'on peut retenir de la cancel culture, finalement, c'est que c'est une arme populaire qui permet aux gens de se rassembler. De se rassembler grâce aux réseaux sociaux, dans le but de prendre part de façon active dans la lutte contre la discrimination et l'intolérance notamment. Donc des causes nobles à la base. Mais qu'est-ce qui donne le courage aux individus de s'exprimer aussi librement et d'attaquer publiquement d'autres personnes? Parce que vous verrez rarement des personnes dans la rue vous dire que ce que vous faites, ça ne leur plaît pas et que vous devriez arrêter. Avec Internet, on a le sentiment d'être intouchable. Mais pourquoi on a le sentiment d'être intouchable? Bien parce qu'Internet, ça donne un accès simple d'utilisation aux médias. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, vous trouverez forcément votre bonheur. Sur les réseaux sociaux, les personnes se regroupent en communautés. Les membres approuvent entre eux les idées des autres membres du groupe. Tout le monde se sent bien entouré, dans un espace confortable. De plus, si jamais ce qu'une personne veut dire peut lui poser problème, l'utilisateur est protégé par l'anonymat. N'est-ce pas? Alors parlons tout d'abord du fait de se sentir comme chez soi sur les réseaux sociaux. Olivier Hertzscheid, il a longtemps étudié les phénomènes engendrés par les réseaux sociaux. Dans son livre intitulé « L'appétit des géants, pouvoir des algorithmes, ambition des plateformes », il présente le web comme un graphe. Alors, le web, le World Wide Web, ça veut dire la toile d'envergure mondiale. Et en fait, une toile, c'est des nœuds, qui sont des pages, qui sont reliés entre elles par des liens hypertextes. Et donc, ça fait une grande toile qui connecte tous les éléments entre eux. En 1999, le web, c'était un graphe qui avait un diamètre de 19 liens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un diamètre de 19 liens? Ça veut dire que tout contenu sur Internet peut être accédé à partir de n'importe quel autre contenu en moins de 20 clics. Et aujourd'hui, on en est où? Eh bien, il constate que c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a l'apparition de graphes dans le graphe. Et en fait, ces graphes dans le graphe, elles sont sous la forme de plateformes telles que Facebook et YouTube. Ces plateformes ont, d'après lui, l'ambition de s'isoler du web en faisant du web un simple nœud présent dans leur propre réseau. Les utilisateurs se retrouvent alors dans un cycle fermé auquel ils s'habituent. Vous ne voyez pas le problème que ça peut poser? L'un d'entre eux est lié à la transparence des algorithmes. Transparence qui est absente sur les plateformes, sur les grandes plateformes. Vos recherches passent par un traitement fait par des algorithmes. Les résultats affichés sont sélectionnés pour vous plaire. Si vous ne pouvez pas croiser les opinions, il est déjà difficile de développer votre propre esprit critique. De plus, il y a l'effet bulle de filtre. C'est-à-dire que quand vous donnez des informations, elles vont être retenues par l'algorithme qui va ensuite ne donner que des informations dans ce cycle-là. Et ça va faire ça ne va aller qu'en s'empirant, et de telle façon qu'à la fin, vous ne pourrez plus rien voir du tout. Vous serez totalement isolé du monde extérieur et vous ne verrez que les choses que vous aviez cherchées au départ. Et aussi, il y a le fait que les algorithmes, on peut se dire à la base qu'ils servent à refléter la réalité. Mais il y a aussi un autre effet, c'est que petit à petit, certains algorithmes ne se mettent pas à refléter la réalité, mais développent leur propre tendance. Et donc finalement, on ne voit plus ce qui se passe dans le monde, mais on voit ce que les plateformes veulent qu'on voit. Finalement, les plateformes semblent mieux nous connaître que nous-mêmes. Et nous, est-ce que nous connaissons bien les plateformes que nous utilisons tous les jours? Imaginez maintenant qu'un jour, vous apprenez que Facebook revend vos données personnelles. Un scandale ! Vous décidez de quitter Facebook. Ah, mais la majorité de vos amis sont sur Facebook. Allez-vous vraiment choisir de détruire votre vie sociale pour des questions morales ? Et puis, après tout, vous n'avez rien à cacher et la publicité personnalisée, ce n'est pas si grave. Pour commenter cela, j'aimerais vous faire écouter un extrait de l'enregistrement d'une conférence intitulée « Anonymat, identité numérique et réseaux sociaux » de Fabrice Eppelboin et Jean-Marc Manac.
Donc on pourra en revenir en détail un petit peu sur les bonnes pratiques, sur ce que recommandent de faire l'ANSSI et la HFDS. Mais donc grosso modo, c'est ça. N'utilisez pas d'ordinateur. Si vous devez, vierge, les données chiffrées, les données offshore, enfin offshore en France, complètement sécurisées. Vous refusez bien évidemment tout ce qui est de forme de clé USB, enfin c'est hors de question. Vous refusez bien évidemment de prêter votre ordinateur, vous l'avez constamment sur vous, blindé. Une fois que vous revenez à la maison, vous donnez l'ordinateur au service chargé de la sécurité informatique, aux informaticiens très compétents, pour qu'ils le scannent, qu'ils le vérifient, qu'il n'y a pas eu des logiciels espions, qu'il n'y a pas eu des choses dedans, et ensuite vous effacez complètement tout ce qu'il y avait dessus, pour de nouveau avoir un ordinateur complètement vierge. Donc l'idée en fait de la... Ce que j'apprends, moi, là, de la sécurité informatique, les bonnes pratiques, là, c'est bon voyage, ça s'appelle le mode d'emploi. Manuel pour le guide des conseils aux voyageurs. Voilà, passeport de conseil aux voyageurs, qui est un truc... Bon, faites attention, lavez-vous les mains, quoi. Ben, en fait, non, c'est pas se lavez-vous les mains, c'est faut pas, n'utilisez pas d'ordinateur. Sinon, c'est trop risqué.
N'utilisez pas d'ordinateur, sinon c'est trop risqué. Quelle belle conclusion. Lors de mon stage de semestre dernier, dans une très grande entreprise d'informatique, c'est exactement le même message que l'on m'a transmis. Cela s'adresse principalement aux salariés en voyage d'affaires, mais si c'est leur seul moyen de protéger leurs données, alors on peut être certain que les nôtres ont depuis longtemps été récupérés. Alors sur les réseaux sociaux où nous communiquons tous les jours, peut-on encore parler d'anonymat ? Je n'ai pas parlé des raisons pour lesquelles il est évident de protéger ses données personnelles. Posez-vous ces questions. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être vu quand vous allez aux toilettes ? Comment est-ce que vous réagiriez si quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé vous racontait tout à coup votre vie dans les moindres détails ? Ou encore, est-ce que vous souhaitez vraiment que votre famille soit au courant de tout ce que vous faites ? Comme l'explique Glenn Greenwald dans son discours TED Talk, protéger son anonymat, ça ne veut pas dire que l'on fait forcément quelque chose d'illégal. Au contraire, il y a certaines choses qui sont intimes et pour lesquelles on ne veut pas être espionné, tout simplement. Vous avez déjà dû entendre ce slogan « Si c'est gratuit, alors si vous en êtes le produit ». Justement, Adrien en a parlé pour le groupe d'avant. Et bien, c'est quelque chose que tout le monde, qu'à peu près tout le monde est conscient, mais pour autant, on ne semble rien y faire. Et bien, c'est pas totalement vrai, puisqu'il y a aussi, il y a quand même certaines choses qui sont faites, notamment la RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données en France, qui oblige les entreprises à ne garder les données que pendant un certain temps. Mais si on veut totalement se protéger, est-ce qu'on doit arrêter du jour au lendemain ? Non, mais comme partout, ailleurs sur Internet, avant de poster une information, il faudrait prendre plus de recul et se poser certaines questions. Alors j'en ai certaines qui pourraient vous aider. Qui aura accès à ce que vous allez mettre sur Internet ? Est-ce que vous serez capable de dire tout haut ce que vous vous apprêtez à dire ? Et si la réponse est non, pourquoi ?
Merci Adrien pour cette conclusion en forme de question. Peut-être qu'en fait, la première question que tu poses, on peut presque y répondre déjà quasiment tout le temps. Donc, qui aura accès ? Peut-être qu'on peut faire le lien aussi avec ce que l'on a entendu dans la première partie. Si on met quelque chose sur Internet, sur le web, in fine, est-ce que tout le monde n'y aura pas toujours un petit peu accès ?
Alors, c'est sûr que dès que quelque chose arrive sur Internet, si on a un petit peu entendu parler de toutes les affaires qui peuvent arriver, on peut se dire que finalement rien n'est vraiment sécurisé, que à un moment tout algorithme sera percé à jour et qu'on réussira à récupérer les informations. Oui, c'est vrai.
Vas-y, Jeanne.
Et j'aimerais rajouter aussi que les utilisateurs aussi participent énormément au fait de dévoiler les données. Si on prend l'exemple des forums anonymes, où les personnes ne s'inscrivent pas dessus, mais postent simplement des messages et restent anonymes, comme 4chan ou ce genre de forum, certains sous-forums de ce genre de site sont dédiés à certaines personnalités. Et même si certaines informations sont simplement disponibles sur leur profil privé Facebook ou ce genre de choses, ils arrivent toujours à trouver les données qu'ils veulent. Ils arrivent toujours à trouver les informations qu'ils veulent. Donc d'une manière ou d'une autre, il est très souvent possible de récupérer des données, même si on se croit protégé.
Ouais, c'était effectivement, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que tu as tout à fait raison, Adrien, de nous dire qu'il faudrait se poser la question de qui y aura accès, mais assez souvent, eh bien, la réponse, ça va être que à terme, comme tu nous l'as montré, Jeanne, avec divers exemples, eh bien, à terme, tout le monde risque d'y avoir accès. Et du coup, j'ai presque envie de répondre aussi à ta deuxième question. Alors, c'est peut-être un petit peu plus... Mais quand tu dis, est-ce que je serais capable de dire tout haut ce que je m'apprête à écrire, je trouve qu'effectivement, c'est un filtre intéressant. Mais pareil, il me semble que dans les exemples de Jeanne, on a vu aussi la limite de ce mode de raisonnement. Je te vois hocher la tête, tu veux...
Oui, alors en fait, ces questions, c'est une façon assez soft de vous dire à tous que tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Et donc, c'est à vous de vous dire... parce que si quelqu'un d'autre va vous dire que vous en êtes le produit et tout ça... Finalement, ok, d'accord, mais j'ai quand même envie de partager mes informations, donc je vais le dire. Mais si la réflexion vient à un moment par vous-même, il y a peut-être plus de chances que vous vous dites « Ah non, ça c'est peut-être trop ».
Ouais, sauf que pour le coup, Jeanne nous donnait, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, mais Jeanne nous donnait des exemples où, eh bien, aujourd'hui, ici et maintenant, je peux penser quelque chose et dire quelque chose. Peut-être que dans 15 ans, effectivement, je peux penser différemment. Et malheureusement, je peux répondre à ta question, ouais, j'assume ce que je dis maintenant. Et peut-être que c'est pas le moi de dans 15 ans qui aura envie d'assumer les mêmes choses, quoi. Est-ce que là, on n'a pas aussi, je sais pas, un effet de l'artefact informatique qui joue. Je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire ou pas plus que ça. Je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions de l'autre côté. Vous vouliez citer vos références. J'ai vu que vous aviez mis pas mal de références en fin d'article. Vous voulez les décliner ou peut-être repréciser les références principales que vous avez utilisées pour votre travail?
Oui, il y en a une qui est très intéressante, c'est l'extrait dont je vous ai passé, Anonymat, identité numérique et réseaux sociaux. Alors dans cette vidéo, il explique en français plein de choses sur l'anonymat, sur par exemple le fait que ce soit les technologies pour traquer les personnes soient ouvertes au public. Et que
continue, pardon, Adrien.
Et qu'il soit très simple de soi-même se mettre à traquer, par exemple, son fils ou même les appels téléphoniques de sa femme, des choses comme ça, et que ça crée un environnement assez néfaste auquel on n'a pas vraiment de réponse actuellement.
Ok, bah merci beaucoup à tous les deux. Donc c'était Jeanne et Adrien pour la deuxième partie donc des présentations réalisées par les étudiants dans le cadre de l'UVWE1. Donc en première partie, on a eu Matteo, Axel et Sangyue qui nous avaient parlé de la surveillance en temps de pandémie et des évolutions de la surveillance en temps de pandémie. Là, vous nous avez parlé plutôt des questions de désinhibition de cancel culture. Et puis, in fine, eh bien, on est revenu aussi un petit peu sur les questions de la surveillance. Si vous avez envie de réécouter ce que l'on s'est raconté, donc ce sera disponible sur graphite.net, puis un peu plus tard sur aperi.tube, chaîne WE1. Eh bien, pour aujourd'hui, pour nous, ça va être tout. On d'ici une heure à peu près, vers 16h45, Audrey Guélou viendra avec un second groupe nous parler Smart City. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour 4 autres émissions entre 14h30 et 18h30. Merci à tous les 5 et à bientôt. Au revoir.